Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée analytique. Aujourd'hui, on va demander à ceux qui nous écoutent d'oublier tout de suite une image d'Épinal assez classique.
Ouais, la fameuse carte postale un peu naïve du ruisseau paisible.
Voilà, le ruisseau avec sa roue en bois recouverte de mousse. Bah, la réalité qu'on va explorer aujourd'hui, c'est infiniment plus brut.
Et plus fondamental aussi.
C'est clair. Le moulin, c'est pas un simple élément de décor champêtre. C'est ni plus ni moins que la toute première machine industrielle de l'humanité.
Et c'est l'infrastructure qui a porté sur ses épaules l'entièreté de l'économie occidentale, bien avant l'ère des énergies fossiles.
Tout à fait. Et donc, pour mener cette exploration de fond, on s'appuie sur une source documentaire vraiment incontournable. C'est une étude monumentale qui s'intitule « Les moulins en Avron ». Et c'est porté par les recherches de Jean-Pierre Henri Azéma.
C'est un travail de synthèse historique qui est absolument remarquable. Et ce qui donne toute sa dimension à cette recherche, bah, c'est la richesse de l'iconographie qui l'accompagne.
Le fameux supplément photographique.
Ouais, un supplément inestimable qui a été patiemment réuni par Monsieur et Madame Jean Vernet Joule.
Il est d'ailleurs indispensable de souligner le travail de l'ombre qui permet à ces archives d'exister. La mise en valeur de ces documents, la direction éditoriale et la conception même de la maquette, c'est l'œuvre de Guy Mazard.
Et sans ce travail éditorial précis, bah, ces trésors d'ingénierie resteraient inaccessibles.
Exactement. Et c'est justement cette ingénierie qui frappe dès les premières pages. Parce que quand on pense force motrice, on pense direct au vent ou à l'eau.
Logique, oui.
Mais l'étude remonte le temps jusqu'à 5000 ans avant Jésus-Christ pour nous parler du moulin à main.
Bah oui, parce que la première force qui a été captée par ingéniosité humaine, c'est l'énergie musculaire. L'ancêtre de toute cette mécanique complexe, c'est de simples pierres maniées à la force des bras.
C'est fou d'y penser comme ça.
Et cette réalité vertigineuse, c'est pas juste une ligne dans un livre d'histoire ancienne. L'étude souligne qu'aujourd'hui encore, dans plusieurs régions d'Asie méridionale, cette technologie est en usage.
Toujours aujourd'hui ?
Toujours, ouais. Dès l'aube, on a des équipes, très souvent féminines d'ailleurs, qui s'installent à même le sol. Elles coincent un moulin de pierre entre leurs jambes et elles travaillent de concert.
Pour actionner la meule.
C'est ça. Elles actionnent une meule tournante par un mouvement alternatif qui est épuisant. C'est un rappel brutal, en fait.
Avant d'exploiter la nature, fallait épuiser les corps.
Exactement. La machinerie reposait entièrement sur l'épuisement des corps simplement pour obtenir la farine de la ration quotidienne.
C'est une perspective qui donne un tout autre poids à la transition vers les forces naturelles. Et d'ailleurs, en parlant de cette transition, l'étude s'attaque à un mythe super tenace concernant le moulin à vent.
Ah oui, la fameuse légende des croisades.
Voilà, il y a cette idée extrêmement répandue selon laquelle le concept du moulin à vent aurait été ramené d'Orient par les croisés.
L'histoire religieuse et romanesque s'est beaucoup nourrie de cette légende. Ça donnait une sorte d'aura chevaleresque à la technologie.
Sauf que c'est faux.
Mais complètement faux. Les textes et surtout les fouilles archéologiques balaient cette théorie. Il n'y a absolument aucune trace, aucun vestige de moulin à vent en Terre Sainte à l'époque des croisades.
Donc c'est pas une importation.
Non, c'est une réponse purement locale. Le développement de l'éolien en Europe, ça a été dicté par des nécessités économiques croissantes et des contraintes géographiques.
Et ces contraintes géographiques, elles ont engendré des architectures radicalement différentes. En regardant les cartes, on voit une vraie fracture sur le territoire français.
Ouais, entre le nord et le sud.
Pourquoi on trouve ces immenses structures entièrement en bois dans le nord, alors que le sud privilégiait la pierre ?
La réponse, elle est dans la topographie et la nature des vents. Dans les grandes plaines du nord, on a vu se développer ce qu'on appelle le type pivot.
Le type pivot.
Faut s'imaginer un colosse de charpente massif qui repose et pivote intégralement sur un unique axe vertical. L'ensemble du bâtiment devait tourner pour aller chercher le vent.
Ah oui, donc tout le moulin tourne.
Tout le moulin. Alors qu'à l'inverse, sur les côtes ou dans des régions au relief plus complexe, comme le sud, on bâtissait le type tour.
Une tour en pierre.
Voilà, en maçonnerie, solidement ancrée et totalement immobile. Et c'est seulement le toit mobile au-dessus qui portait les ailes et qui tournait.
Et dans la zone de l'Aveyron, qui est étudiée par Jean-Pierre-Henri Azéma, on observe une concentration très nette de ces moulins en pierre.
Oui, dans un périmètre très défini. Un triangle stratégique entre Rodez, Décaldéville et Martielles.
Mais cette visibilité exceptionnelle du moulin à vent dans les paysages dégagés, ça a fini par se retourner contre lui.
Particulièrement lors de la Première Guerre mondiale. L'étude évoque une disparition massive dans le nord de la France.
Et c'est pas à cause de l'usure du temps ?
Non, c'est une destruction systématique. Bah, imaginez, dans une plaine parfaitement plate, une structure haute de plusieurs dizaines de mètres, ça offre un avantage tactique inestimable. Pour les belligérants, c'était les seuls postes d'observation capables de dominer les lignes ennemies.
Donc des cibles prioritaires.
Pour l'artillerie, ouais. L'un des exemples les plus tragiques mis en lumière, c'est celui du moulin de Pont-à-Vert, au-dessus de la vallée de l'Aisne.
Ce moulin, c'était un véritable chef-d'œuvre technique avant d'être anéanti par les obus. On mentionne l'utilisation des ailes système Berton. Comment ça fonctionnait, ce mécanisme ?
Le système Berton, ça a révolutionné le pilotage. Avant, on avait des toiles traditionnelles qu'il fallait installer et retirer à la main.
Au risque de se faire emporter par le vent.
Exactement, c'était super dangereux. Ce système utilisait des planches de bois superposées qui fonctionnaient sur le principe des stores vénitiens.
Ah, c'est brillant, ça.
Le meunier pouvait, depuis l'intérieur, régler l'écartement de ses lattes de bois pour ajuster la prise au vent très précisément. Et le moulin de Pont-à-Vert possédait aussi un papillon d'orientation.
C'est quoi un papillon d'orientation ?
C'est une petite hélice perpendiculaire qui remettait automatiquement le toit face au vent.
Une ingéniosité folle !
Littéralement pulvérisée par la nécessité militaire.
Avec ses destructions stratégiques et puis la nature capricieuse du vent, on comprend mieux la suprématie d'une autre force motrice, beaucoup plus constante, l'eau.
Ah, l'hydraulique, oui.
Les chiffres évoqués donnent le vertige.
L'ampleur de ce réseau est très souvent sous-estimée. Dès le 1er siècle avant notre ère, on trouve des traces de roues à eau perfectionnées notamment dans le palais du roi Mithridate.
Et l'accélération en Europe est phénoménale après ça.
Si on fait un bond jusqu'à la fin du XVIIe siècle, l'ingénieur Vauban, qui parcourait le territoire, a évalué le nombre de moulins hydrauliques en activité.
Et le chiffre est colossal.
100 000 pour la seule France.
100 000 moulins.
Et à l'échelle européenne, on parle de 500 000 installations. C'était la véritable grille énergétique du continent.
Pour se représenter cette densité et la variété des mécanismes, il y a des reproductions de cartes postales anciennes intégrées à la publication qui sont saisissantes. Il y en a une qui montre le moulin du pont Vieux à Millau.
Un très bel exemple.
Ce document illustre une spécificité mécanique propre au sud de la France, les roues horizontales.
Effectivement, alors que le nord privilégiait de grandes roues verticales qui brassaient l'eau de face, le sud utilisait massivement ces roues horizontales.
Placées à plat sous le bâtiment.
Semblables à de petites turbines primitives qui étaient accélérées par un jet d'eau sous pression. La bâtisse du moulin du Pont Vieux était d'ailleurs solidement imbriquée dans la maçonnerie même des arches du pont.
Mais l'ingénierie devait s'adapter à des fleuves beaucoup plus sauvages aussi, comme la Loire ou la Seine.
C'est là qu'interviennent les fameux moulins pendants.
Des moulins pendants.
C'est un système où la roue motrice est rattachée à un bâti que le meunier pouvait faire monter ou descendre à volonté grâce à de gigantesques vérins en bois.
Donc il réglait la hauteur selon le niveau de l'eau ?
Il fallait maintenir la roue au contact exact du courant, que le fleuve soit très bas ou en pleine crue.
Cette complexité technique nous amène immanquablement à la figure centrale de cet écosystème, le moulin. L'analyse de son statut social est pleine de paradoxes dans l'étude. On découvre un homme indispensable à la survie de tous, mais tenu à l'écart.
Le meunier est un marginal puissant. Il n'est pas un noble, il n'est pas un bourgeois des villes, et il n'est pas non plus un paysan, puisqu'il ne cultive pas la terre.
Son lieu de travail le place physiquement en marge.
Isolé au fond d'une vallée, au bord d'une rivière tumultueuse ou perché sur une colline balayée par les vents. Il suscite la méfiance, en partie parce que la mécanique de sa machine bruyante impressionne.
Et surtout, il contrôle la nourriture.
Il contrôle l'ultime étape avant l'alimentation.
Et le poids de cette alimentation est incomparable avec nos standards actuels. L'étude avance une statistique cruciale. Avant 1914, la ration d'un travailleur de force ou d'un paysan était constituée à 80% de pain.
On parle de 900 grammes de pain par jour et par personne.
900 grammes, contre un peu moins de 100 grammes aujourd'hui.
Donc le flux ininterrompu de farine, c'était une question de sécurité publique constante.
Et maintenir ce flux n'était pas de tourpeau.
Au-delà de surveiller le grain, le meunier subissait un travail d'entretien éreintant. Il y avait notamment l'opération vitale du rhabillage des meules.
Ce qu'on appelle aussi les piquages.
Les énormes pierres circulaires qui broyaient le grain s'usaient par la friction continue. Pour conserver leur mordant, le meunier devait régulièrement les soulever, une manœuvre déjà périlleuse.
Des pierres qui pèsent des tonnes.
Utiliser des marteaux spéciaux à panne métallique très affûtés pour retailler d'innombrables petites stries à la surface de la roche.
Un travail de forçat.
Réalisé dans la poussière et indispensable pour ne pas que la farine brûle et perde sa qualité.
Ce monde artisanal, il va pourtant basculer à la fin du XVIIIe siècle avec une vague de modernisation venue des États-Unis. C'est la naissance de la minoterie.
L'invention de l'Américain Oliver Evans.
Comment il a redéfini la mécanique meunière, cet Oliver Evans ?
Il a introduit le concept du flux continu, ou American Mill, en l'important en Europe. Il a totalement verticalisé la production en éliminant les interventions manuelles.
Le grain n'est plus transporté à dos d'homme d'un étage à l'autre.
Fini le sac porté sur le dos. Ce sont des chaînes sans fin équipées de godets qui élèvent la matière. Et pour les déplacements horizontaux, il intègre la vis d'Archimède, redistribuée dans l'intégralité du bâtiment jusqu'au faîte du toit via un réseau complexe d'axes, de courroies et de poulies.
C'est de l'automatisation avant l'heure. Sauf que cette concentration frénétique de machines tournant à grande vitesse dans des espaces clos a fait naître un péril assez terrifiant.
Très bien documenté, ouais.
Une usine remplie de farine en suspension dans l'air, on se dit c'est inoffensif.
En réalité, c'était une véritable poudrière, à cause des polyphénols.
Des explosions de farine?
Absolument. La farine n'est pas qu'un ingrédient, c'est une matière organique hautement combustible. Quand ces poussières ultra fines chargées en polyphénols saturent l'air d'un espace fermé, le moindre incident devient fatal.
Une friction anormale entre deux meules?
Ou l'échauffement d'une courroie en cuir? Même une simple étincelle due à un silex dans le grain et l'atmosphère entière s'embrase.
Ça crée un effet de bombe thermobarique.
Une explosion dévastatrice, instantanée, suivie d'un incendie que la structure en bois des planchers alimente furieusement.
C'est ce risque permanent qui explique l'allure des grands moulins havronais présentés dans le recueil photographique. Les images choisies par Guy Massard sont très parlantes à ce sujet.
Si on observe la carte postale du majestueux moulin de la Kelsade à Sévérac-le-Château,
on voit un édifice de pierre massif, imposant, percé de multiples fenêtres.
Indispensable pour ventiler ces poussières explosives.
Et il y a un détail historique glaçant. Cette bâtisse si robuste a dû être intégralement reconstruite en 1852, précisément après un incendie total.
Le moulin du Marquès à Berthelaine affiche la même architecture de forteresse industrielle conçue pour encaisser les vibrations colossales et limiter la propagation des flammes.
Cette notion de forteresse, c'est pas qu'une métaphore architecturale liée au feu. L'histoire du moulin est jalonnée de menaces bien plus directes.
Si on remonte aux heures sombres de la guerre de Cent Ans, la sécurisation de l'outil de production, c'était une question de survie militaire. L'étude s'attarde sur les moulins fortifiés, particulièrement en Aquitaine.
Des bâtiments équipés de mâchicoulis, d'archères,
et de murs d'enceinte pour repousser les routiers, ces mercenaires redoutables qui pillaient les ressources alimentaires.
Au-delà de ces fonctions de nutrition et de défense, il y a une utilisation de la force hydraulique qui sort complètement de l'ordinaire dans l'article.
La pêche?
Oui, le meunier aveyronnais ou aquitain ne se contentait pas de contrôler la farine. Il exerçait aussi un monopole absolu sur la faune aquatique.
Placer un barrage en travers d'une rivière pour alimenter une roue, c'est de facto créer un entonnoir pour tous les poissons migrateurs.
Mais l'ingéniosité est allée beaucoup plus loin qu'un simple filet jeté à l'eau. Au Pays Basque, l'ingénierie a accouché d'un système appelé le barreau.
Le mécanisme de ce barreau est fascinant. Il ne s'agit pas d'un outil manuel, mais bien d'une intégration totale de la pêche à la force motrice.
Comment une roue à eau pouvait-elle capturer des saumons de manière autonome ?
Le barreau, c'était une roue hydraulique spécifique où les pales destinées à capter l'eau étaient remplacées par des cadres garnis de filets.
Des épuisettes rotatives en somme.
Entraînées par le courant, la roue tournait inlassablement. Chaque cadre plongeait dans l'eau puis ressortait, interceptant automatiquement les saumons et les truites qui tentaient de remonter le courant.
Et la prise était déversée dans un réceptacle sans que le meunier n'ait à intervenir.
L'efficacité de ce système industriel était terrifiante pour l'écosystème. Les archives mentionnent qu'une de ces installations près de Peyrorade a remonté 1302 saumons pour la seule année 1908.
Un tel pillage automatisé a finalement contraint les autorités à l'interdire dès le début des années 1920.
Et cette capacité d'adaptation n'est qu'un prélude à la véritable explosion technologique détaillée par Jean-Pierre-Henri Azéma.
Oui, parce que l'énergie mécanique produite par la roue a été détournée pour accomplir les tâches les plus invraisemblables. L'article recense plus de 140 types de moulins industriels.
Il faut imaginer un système d'arbres à cames, un axe central tournant muni d'excroissances qui, à chaque rotation, viennent soulever ou pousser un mécanisme alternatif.
Cette simple conversion d'un mouvement circulaire en mouvement de frappe ou de sillage a tout changé.
Dans l'industrie textile, très présente dans l'Aveyron, on trouvait les moulins Foulon.
Connus sous le nom de parailleurs en Languedoc.
À Saint-Génier de Dault, on en comptait jusqu'à 13 au XVIIe siècle. Leur rôle était crucial. D'énormes maillets de bois soulevés par l'arbre à cames puis relâchés venaient pilonner des draps de laine.
Trompés dans des cuves d'eau argileuse pour les dégraisser, resserrer les fibres et épaissir le tissu.
Et cette même technique du pilon frappeur s'appliquait à des matériaux bien plus coriaces, comme la métallurgie avec les fameux martinets.
Le martinet, c'est l'ancêtre du marteau pilon en fait.
La roue à eau actionnait un gigantesque manche en bois au bout duquel était fixée une masse de fer pouvant peser plusieurs centaines de kilos. Le marteau se soulevait et retombait à un rythme régulier.
permettant aux forgerons de travailler le fer ou d'étirer des plaques de cuivre en fusion.
Ces forges hydrauliques, ces chaudrons industriels du Rouergue, produisaient des pièces d'une telle qualité qu'elles alimentaient d'importantes métropoles, envoyant leur vaisselle de cuivre jusqu'à Paris au XVIe siècle.
La diversification s'étendait même au travail du bois, avec des moulins équipés de lames droites pour scier des troncs entiers, ou encore des ateliers très spécialisés comme le moulin du Moulineau à Campagnac,
qui abritait une usine produisant exclusivement des soufflets.
Et n'oublions pas l'industrie vitale du cuir, avec les moulins à tan ou à rusque.
Sable à la transformation des peaux brutes en cuir imputrescible.
Tout ce foisonnement de 140 types d'industries démontre une chose essentielle. Le moulin n'est pas mort avec l'avènement de l'ère moderne. Il en a été l'incubateur.
Et c'est cette maîtrise séculaire de l'ingénierie hydraulique qui a permis d'amorcer l'ultime transition. Celle vers l'électricité.
C'est un point fascinant. On attribue généralement le triomphe de l'hydroélectricité à l'ingénieur Aristide Bergès dans les Alpes vers la fin du 19e siècle.
Mais la recherche sur l'Aveyron nous livre une anecdote géniale sur les pionniers. Les premières étincelles électriques du département n'ont pas été allumées par des manias de l'industrie,
mais par des religieuses.
La surprise est totale.
Dès 1886, ce sont les sœurs de l'abbaye de Bonneval qui ont fait installer une usine hydroélectrique sur leur domaine.
Une alliance assez étonnante entre la clôture stricte d'un ordre monastique et l'adoption pionnière de l'énergie électrique.
Pour moderniser leur outil de travail et sécuriser leur production. Cette modernisation par la force de l'eau s'étendait aussi à l'hygiène et au confort en éliminant la corvée du puisage.
L'étude mentionne le cas remarquable de l'usine élévatoire de Sainte-Eulalie de Cernon, au début du XXe siècle.
Une démonstration brillante de physique appliquée. Le camp militaire du Larzac, perché sur un plateau aride, nécessitait un approvisionnement en eau potable immense.
L'usine de Sainte-Eulalie utilisait la puissance brute d'un cours d'eau en contrebas pour actionner des pompes mécaniques géantes.
L'énergie de l'eau courante servait littéralement à refouler une autre partie de cette eau pure sur des centaines de mètres de dénivelé.
La rivière travaillait à vaincre sa propre gravité.
C'est exactement ça.
La force brute de cette nature domptée transparaît de manière spectaculaire dans le dernier volet du supplément photographique de la famille Vernejoule.
L'image de la cascade et du moulin des Houles à Laguiole.
On ressent presque le fracas de l'eau. La bâtisse de pierre semble accrochée à la falaise, fusionnant avec la violence du torrent écumant pour en extraire chaque parcelle d'énergie.
Une autre vue met en évidence l'architecture trapue et indestructible du moulin du Mât à La Calme, défiant le flot incessant.
Ces bouts de carton centenaires sont la preuve visuelle que les vallées aveyronnaises cachaient un véritable empire industriel capturé juste avant sa lente disparition.
La synthèse de toutes ces décennies d'ingénierie permet de corriger définitivement le prisme par lequel ce patrimoine est observé. Qu'il exploite les courants aériens ou le débit des rivières, le moulin a constamment représenté le summum de l'innovation technologique.
Il a su muter du broyage laborieux du grain au tissage de la laine, au forgeage des métaux, jusqu'à la production de notre électricité contemporaine.
Le prototype de l'industrie moderne est là, taillé dans la pierre et le bois.
Ce constat historique pousse inévitablement à questionner notre présent. À l'heure où la quête de sources d'énergie locales, inépuisables et décarbonées est devenue l'enjeu central de la société, notre regard sur ces milliers d'édifices endormis doit évoluer.
On ne peut plus les voir comme de simples vestiges.
Faut-il continuer de considérer les ruines de ces innombrables moulins parsemant les rivières et les collines européennes comme de simples curiosités pittoresques à préserver sous cloche pour leur charme désuet ?
On a peut-être un réseau qui nous tend les bras.
Ne pourrions-nous pas plutôt y voir la matrice préexistante d'un maillage énergétique décentralisé ? Une infrastructure dormante, conçue il y a des siècles, qui n'attendrait qu'une volonté technologique nouvelle pour reprendre du service.
C'est une vraie question pour l'avenir.
Voilà une réflexion stimulante à emporter avec soi après cette discussion. Un grand merci à ceux qui nous écoutent d'avoir suivi cette fascinante analyse historique et industrielle.
Merci à notre public.
À très bientôt pour de nouvelles explorations documentées.